Qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie ?
Pour l'espoir, la vie même. La vie, ça coûte la peine de la vivre quand même. C'est une aventure. La vie se passe, mais en plus, il faut la profiter. Pour moi, une manière de profiter la vie, c'est me consacrer à ce métier que j'adore, que c'est la bande dessinée, et que j'adorais toute ma vie.
Bonjour, avec la complicité de la librairie Aladdin, nous accompagnons dans la rue
Jordi Lafèbre,
le dessinateur des Beaux Étés, bande dessinée parue aux éditions d'Argo.
En fait, travailler de la bande dessinée, c'est déjà un rêve. Le rêve du gamin que j'étais. Et la vie, comme je te dis, ça coûte la peine de la vivre, de la profiter jusqu'à la fin, parce qu'on sait d'où on vient, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va, en fait.
Est-ce qu'on se dit tu, on se dit vous, on se dit quoi?
Tout. Bon, tout à fait.
J'ai commencé par un vous voyez, donc ma deuxième question.
Non, on va changer déjà. Ouais.
Tu as su quasiment sortir du berceau, que tu étais doué pour dessiner et que tu allais en faire ton métier?
Je ne sais pas si je suis doué ou pas, spécialement pour dessiner. Ce que je sais, c'est que je consacrais mes temps libres à dessiner quand j'étais petit. Mais j'étais un petit garçon très bougeant, très inquiet, qui s'arrêtait jamais à faire une chose ou l'autre. En fait, ma maman me disait plusieurs fois « arrête » que Jordi. Mais je me rappelle très bien que mon grand-père, un jour, a dit « tiens, ce mec-là, qui s'arrête jamais, il s'arrête que pour dessiner. » Et c'est vrai que je trouvais un certain relax, un certain esprit de calme quand je mettais toutes mes concentrations à dessiner. Et comme je trouvais le plaisir à dessiner, je ne sais pas si j'ai le talent spécial ou pas, je ne sais pas si j'avais plus de talent que les autres copains de la classe, de l'école, mais ce que je fais, c'est de la pratique. Mais n'est pas pour, bien sûr, pour arriver à améliorer, parce que je voulais améliorer à dessiner, mais surtout parce que je trouvais plaisir à faire, et je trouve encore plaisir à dessiner. J'explique toujours à mes copains que pour moi, dessiner, c'est une sorte de digestion de la réalité. S'il y a quelque chose qui me gêne ou qui m'énerve, je crois que d'une façon ou autre, je vais arriver à la dessiner pour la digérer. C'est une manière de vivre, c'est une manière de respirer, de manger, de digérer la réalité. Moi, je continue à dessiner. Et quelqu'un qui fait un truc, n'importe quoi, hein, toucher, jouer le violon, dessiner en vélo. Si quelqu'un se consacre sa vie complète à faire un truc, à la fin, ils finissent pour faire un peu bien quand même.
Tu te souviens de ton premier dessin ?
Non, impossible. Je garde des dessins quand j'étais vraiment petit. J'ai dû garder des dessins quand j'avais 6 ans. Mais je sais que celui-là, ce n'était pas le premier. Le premier que je garde, ce sont quand j'avais 6 ans. J'ai la date notée. Déjà, le jour que je le fais, j'ai noté la date.
C'était quoi ?
De conneries, de petits visages, de petites montres, de personnages à ma manière, de gros nez. J'avais mes bandes dessinées de Derso, de Franquin, de Superman de mon père. Pour moi, c'était un rêve, c'était vraiment hallucinant de voir un univers complet, tout dessiné dans ces planches. Et moi, j'essayais de faire la même chose à ma manière. Mes petits dessins, mettez-vous comme dessinateur, surtout des personnages, des rigolotes.
Rassure-moi, quand tu étais tout petit, tes premiers bonhommes que tu dessinais, c'était des bonhommes tétards.
C'est ça.
Ou alors que tu étais déjà un génie et tu avais déjà...
Non.
Je crois que c'était des bonhommes tétards.
C'est pas. Je voulais absolument comprendre le marché de la bande dessinée française et franco-belge. Je me rappelle très bien que j'avais 25 ans, je suis allé à Paris et je ne suis pas arrivé à acheter même un ticket de train. J'avais parlé pas un mot de français, mais je l'ai appris, j'ai pris un petit cours. Et puis je lis pas mal de bouquins de bande dessinée, je discute avec des éditeurs. Tout le monde fait un effort pour me comprendre. Et finalement, j'ai appris quelques mots. C'est comme ça, j'ai appris la langue comme les gamins, petit à petit.
Comment on choisit son partenaire ? Il y a le dessinateur, il y a le scénariste, parfois c'est le même.
Ouais, c'est la vie qui l'amène. Hein. On croit qu'il choisit beaucoup de choses dans la vie, mais je crois que le hasard joue un rôle énorme dans notre vie. Moi, je cherchais un scénariste pour travailler avec. J'étais un Barcelonais qui cherchait du boulot au marché franco-belge. J'avais 26-27 ans. Je travaillais pour un magazine pour les enfants en Espagne. Mais je croyais à l'époque que je travaillais tout seul. Hein. Mais j'avais touché en sortant de limite que je pourrais arriver pas plus loin tout seul en Espagne. Et quand je cherchais un scénariste, je suis allé à Angoulême, à la foire, je cherchais par internet, mais je ne trouvais pas. À la même époque, c'est Zidrou qui m'a contacté pour faire un petit truc pour les enfants, parce que c'est ça qu'il a vu dans mon travail. Et le jour qu'on a fait le premier rendez-vous, il a vu mon travail plus adulte, si tu veux, plus réaliste. Et du coup, on a décidé de travailler ensemble en 3 minutes. Tu vois, le rendez-vous, jusqu'à aujourd'hui, le rendez-vous plus important de ma vie professionnelle, là, on a fait en 30 minutes. Et je ne savais pas à l'époque, c'était impossible de penser qu'on arriverait si loin avec. Mais c'est la vie comme ça, c'est la vie que je choisisse. Et du coup, qu'on a toi un partenaire avec qui tu comprends bien, il n'a pas raison de changer jusqu'à ce que tu nous trouves encore en limite. La vie, c'est des saisons, la vie, c'est d'époque. Et un jour ou un autre, l'époque avec Zito, ça va finir, mais jusqu'à l'instant, je crois honnêtement que c'est la vie même qui va mener encore le prochain copain. C'est ce qu'on a, un prochain copain, je travaille tout seul. C'est l'univers qui va choisir pour moi.
Tu avais quel âge en 73 ou moins quel âge ?
Moi, je suis né en 79.
Donc, tu avais moins 6 ans.
Ouais, c'est ça. Exactement, exactement. Même ma grande sœur, il n'avait pas né. J'avais moins 6 ans. Ouais, j'avais moins 6 ans.
Là, on est en ligne.
Allô, allô, allô. Non, nous ne sommes pas en direct. J'enregistre, mais nous ne sommes pas en direct. Ça, c'est sympa, on est en ligne. Ouais.
On est en ligne.
C'est dédié.
La maman.
Vous aviez quel âge en 73?
On n'était pas nés.
Pas nés.
Alors, moins combien?
Moins 73, moins 27.
Bah, moins 26.
Moins 28. 73, moins 28.
Est-ce que vous avez des souvenirs d'être parti avec vos parents en vacances, en voiture et en vacances?
Oh bah pardon, bah oui, enfin je sais pas, on fait partie des gens qui sont partis en vacances avec nos parents.
En voiture?
En voiture, voilà.
Cap, vers le nord, vers le sud?
Vers le sud.
Vers où?
Sud de la France et sud-ouest de la France.
Au Maroc.
Sud-est.
La bagnole de tes parents, c'était laquelle?
La bagnole de mes parents, c'était une Alfa Romeo.
Il y avait des haltes.
Il y avait des haltes parce qu'on risquait de vomir, donc... Bah quand on est petit, on a le mal de... On avait toujours peur qu'il y en ait un qui vomisse.
Est-ce qu'il y avait un rituel?
Un rituel?
Genre, on passe devant une baraque à frites, par exemple, et on se dit, au retour, on s'arrêtera.
Non.
Non.
Non, on essayait de visiter des choses sur le chemin, on s'arrêtait, on faisait le trajet en 2 jours. Du coup, voilà. Mais rien de fou.
Oui, on s'arrêtait toujours à un endroit quand on allait au Maroc, en Espagne. Un restaurant, un café, avec une très belle vue dans les montagnes. Du coup, à chaque fois qu'on part en la route, on s'arrête. On achète du miel aussi, enfin, du miel dans ce truc-là.
Et moi, je me souviens qu'on s'arrêtait souvent à Millau, en fait. C'était un peu le rituel aussi, tous les ans. Voilà.
Ça qui m'étonne beaucoup, c'est qu'en fait, on cherchait de faire de raconter une histoire universelle, même si c'est un bouquin très spécifique d'une époque, d'une famille. Mais à la fin, on s'est posé la question, qu'est-ce qui n'a pas fait des vacances avec sa famille? Tout le monde a fait ça. Tout le monde a pris la bagnole, a fait les vacances avec sa famille. Et on peut, d'une manière ou autre, toutes les anecdotes sont les mêmes. On peut se trouver dans cette petite famille. Parce que tout le monde a fait tout le monde a vécu un peu ça, en fait. Moi, de ma part, je suis Barcelonais, on prenait la bagnole et on fêtait les Nords. On fêtait l'Europe, on a fait la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique aussi. En bagnole, on prenait 3 semaines de voyage avec mes parents et ma sœur. Et on revenait à Barcelone avec plein de souvenirs et d'une manière différente de voir les vacances. C'est par le soleil, parce que pour moi, pour nous, le soleil, et plus souvent, depuis mai jusqu'à septembre, si tu veux, et on a beaucoup de plages. Mais pour les vacances, en août, quand mon père fait des vacances, on fait des vacances de Nord, on fait des voyages tourisme.
Vous pouvez me raconter une anecdote un peu incroyable?
Moi, j'en ai pas une qui me vient là, je réfléchis.
Moi, c'est peut-être un peu sordide, mais en arrivant à Fréjus, en fait, donc on installe notre campement. Et en fait, donc mes grands-parents habitent à Nice, à côté. Donc du coup, mon père m'amène chez mes grands-parents. Et il se trouve qu'ils ont un appel d'un couple d'amis avec qui on était allé en vacances, donc au camping à Fréjus. Et en fait, le camping était en train de brûler. Un souvenir sympathique.
Non, je crois que j'ai pas de souvenir comme ça.
J'avais mis mon cerveau en off, alors j'ai pas pu réfléchir. Je sais pas.
Ils sont d'où, tes parents, de Maroc?
Du Maroc, oui. De Fès, mon papa.
De Fès?
Oui.
Okay.
Et ça ira ma maman.
Okay. Et tu y vas là encore?
Oui, tous les 2 ans à peu près.
En voiture aussi ou tu prends l'avion?
L'avion. Enfin, des fois, je peux aller en voiture et je rentre en avion.
Est-ce que ça vous est arrivé une fois que votre voyage soit interrompu?
Non.
Bah moi, mis à part le feu à Fréjus, non.
Non, je crois qu'on est toujours arrivé à destination.
Vous êtes lecteur, lectrice de bande dessinée?
Quand j'étais petite, plus maintenant.
Oui, moi aussi.
Et pourquoi ça?
Pourquoi vous avez... à la bibliothèque et j'en prenais tout le temps plein.
Ouais, mais non, papa.
J'ai plus à la bibliothèque.
Ah! Faut y aller à la bibliothèque.
Mais oui.
Moi, j'en lis de temps en temps, mais c'est vraiment de temps en temps. Je vais pas vers la BD en priorité. Parce que j'y connais pas grand-chose. Donc si je... Non, mais au rayon BD, je vais pas savoir laquelle choisir.
Qu'est-ce qui est important? C'est l'histoire? C'est le dessin?
L'histoire. De quoi ça traite, et puis les dessins, ouais. Moi, j'aime bien quand c'est coloré. J'aime pas quand c'est en noir et blanc.
Oui, pour moi, dans la BD, le dessin est quand même très important. C'est vrai que c'est sympa d'avoir de belles illustrations dans une BD, quoi. Si en plus l'histoire est sympa, là...
Quand on vous transporte dans une époque, ce qui pourrait être le Moyen-Âge, mais là, on est dans les années donc 73-70, est-ce que vous êtes attentif, attentive à la précision des détails?
Bah oui, c'est important, sachant qu'on n'était pas né en 73, donc justement pour s'imaginer un peu comment c'était, justement imaginer encore mieux les objets, et puis justement après l'illustration fait le reste, quoi.
C'est une partie de mon métier que j'adore en fait, mais la documentation, quand on parle de documentation pour faire un travail graphique, on pense surtout à la Moyen-Âge, on pense à la Deuxième Guerre mondiale, mais on ne pense pas au XXe siècle. Mais en fait, en 73, c'est déjà le passé. La vie a beaucoup changé depuis. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de la même bagnole. Et la vie a beaucoup changé, même le vêtement. Et je fais un travail de recherche parce que j'adore l'époque et j'adore la recherche de historique. En plus, j'essaie de faire de plus de détails qu'on met dans la bande dessinée. Ça fait en sortant de lit qui soutient le reste de l'histoire. Ça soutient le personnage à plus de crédibilité. Tu comprends bien qu'ils sont de l'époque. Et sa réaction, sa manière de bouger, c'est pas la même que nous. Aujourd'hui, tout le monde va par la rue, en la tête bassée, et en regardant son petit portable. Et si quelqu'un dessine en bande dessinée d'aujourd'hui, dans 100 ans, 50 ans, il faudra absolument dessiner ça. Chaque époque nous parle de gens qui vivaient. Alors c'est important de dessiner, de prendre tous les détails et tout de... Tu vois, il vient de signaler le papier peint qu'il a dedans. Ça parle aussi de l'époque.
On place tout de suite les années.
C'est ça, c'est important de ça. Et pour nous, de gens qui sont, nous sommes plus jeunes, ça peut être pas trop la classe, mais si tu parles à quelqu'un de l'époque, il adorait ça. Ça nous parle, le petit détail de chaque époque, ça nous parle.
Vous êtes en train de découvrir,
oui.
Et alors, les impressions?
Je trouve que justement, c'est... Le choix des couleurs, ça fait assez vintage et du coup, ça parle bien des années 70. Enfin, je trouve qu'on n'y connaît pas, on voit bien que c'est pas notre période actuelle.
Le côté un peu sépia aussi,
ouais,
ici, ça ramène dans une époque passée, et c'est pas mal.
Ouais.
Donc vous voyez les dessins à l'envers?
Oui, moi je vois à l'envers les dessins. Rien que les lunettes, là, parce que moi je suis opticienne, alors je fais attention aux lunettes. On voit que c'est des années 70, les grosses lunettes.
Bon point. Nous accompagnons dans la rue
Jordi Lafebvre,
le dessinateur des Beaux Étés, bande dessinée parue aux éditions d'Argo. Mais même dans les postures de gamin, est-ce que vous vous retrouvez?
C'est Audrey.
Alors, faut expliquer pourquoi.
Parce que c'est une petite fille qui rigole, parce qu'Audrey rigole tout le temps, avec ses petits cheveux roux. Quand elle était petite, elle était rouquine.
Elle s'imagine toujours comment j'étais quand j'étais petite, mais c'est pas vrai.
Vous êtes combien?
Les parents exaspérés, oui, je comprends. Genre, oh là là. On leur demande à chaque fois quand est-ce qu'on arrive, donc... Combien? Deux. Nous, on est que deux enfants.
Nous, on est trois.
Moi, je suis fils unique, donc...
Ça fait moins de bruit.
Moins d'animation, quoi. Ouais. Voilà.
Sur la façon d'agencer la planche,
bah, je trouve ça aéré, c'est agréable parce qu'on a le temps de bien regarder les dessins. Comparé à certaines BD, où... parce que j'en regarde, même si j'en lis pas tout le temps. Et... Oui, c'est ça. Là, on voit que le dessin a vraiment une importance.
C'est bien mis en avant.
Vous avez mis combien de temps à tout dessiner?
Ça dépend. Pour faire ça, on a pris presque 9 mois. 9 mois. Ouais, c'est un peu le rythme que l'éditeur demande. Ça aussi en fonction de dessinateur, en fonction de...
Vous êtes content du résultat?
Mais je suis jamais content de résultat. Non, je suis jamais content de résultat. Je commence à avoir l'habitude de voir mes résultats publiés en album. J'ai une anecdote. Le premier bouquin que j'ai fait à l'époque, j'ai reçu à la maison la boîte avec les bandes d'exemplaires que l'éditeur ouvre à l'auteur. Et je n'étais pas capable de l'ouvrir. J'ai eu la boîte tout fermée avec mes bouquins dedans. Je ne voulais pas même l'ouvrir. J'avais une terreur de la voir et de voir tous les défauts. Et c'est ma femme qui m'a dit, c'est quoi ça? C'est la boîte avec les bouquins. Mais non, mais tu l'ouvres? Non, non, non. Alors, je réussis à l'ouvrir, à regarder un peu comme ça. Mais du coup, que je commence à le regarder bien, je vois que les défauts, mais c'est normal, c'est tout à fait normal pour moi.
Ils sont où les défauts?
Ils sont partout.
Donnons un exemple.
Ah non, non, non. C'est
Donc on est page 33.
Au casse 3, la proportion de la visage, du personnage par rapport à la reste.
Ah, mais il est très expressif, c'est bien. Oui. Il est très expressif. Ouais,
ça me pose des questions. En fait, j'essaye toujours de faire le personnage très expressif. Mais je ne peux pas aller trop loin parce que je risque de déformer le visage. Alors, trouver l'équilibre entre ça, ça me pose des questions. Et comme le rythme, c'est dur, parce que c'est 9 mois pour faire un album, c'est pas mal quand même. À un moment donné, je dois finir le dessin et aller à autre chose. Ça arrive rarement que je suis vraiment content de dessin, de résultat final.
Très perfectionniste.
Ouais, mais je vous explique de manière, qu'est-ce qui s'aime bien aux photos quand ils sortent au Facebook? Ah, j'adore cette photo, qu'est-ce que je suis belle là.
Ah, Yoann, il s'aime bien. Oh, je suis trop beau là.
Je me suis trouvé, jamais trouve beau dans les photos, c'est rare. On se connaît trop bien et on dit non, mais non. On tire la gueule.
On a le droit d'être fier de son travail. Ah, voilà. On peut être fier de son travail.
Oui, je suis fier de travailler, mais pas content du résultat, c'est différent.
D'accord.
Et vous faites, vous finissez un dessin, vous y revenez, ou vous faites plusieurs dessins en même temps, ou vous faites un dessin vraiment la suite à...
Un dessin à chaque fois, dessin par dessin. J'essaye de dessiner ça un jour, un strip par jour.
Ah oui.
Et je finis le strip et je change, je répète jamais, sinon ça reste un peu non.
Et c'est chronologique dans le travail? Enfin,
je suis le rythme de narration pour bien comprendre l'histoire, bien comprendre le personnage et l'évolution de l'histoire. Ouais, j'essaie de faire ça.
La narration, elle est écrite avant. Et ouais. Quelqu'un a écrit toute la narration et vous faites tous les dessins et vous intégrez.
Voilà, c'est ça. C'est le scénariste qui fait le scénario et les dialogues. Et puis la narration, en fait, c'est un choix entre les deux, parce qu'il fait une proposition de narration, mais après, moi, je suis libre de changer ce que j'ai envie ou je ressens. Du coup, quand je vois les dessins, il y a des trucs qui ne marchent pas, ou des trucs que je peux faire. En fait, tout le côté, moi, je ne changerai jamais une seule phrase du scénario, parce que c'est le scénariste, c'est lui qui me rend le personnage et le dialogue. Mais par contre, moi, mon côté, ce sont les images. Alors, si j'imagine une image qui c'est mieux, que je crois qu'elle apporte plus de détails, plus de force à l'histoire par rapport à ce qu'il a imaginé, je change l'image.
qu'est-ce qui pourrait faire interrompre un voyage ?
La mort de quelqu'un, d'un proche, dans la famille.
Un feu de forêt.
Quelqu'un trop près pendant le voyage ?
Je veux dire rien, en fait, de bouquin, mais c'est un peu ça, en fait. On revient au début, qu'est-ce qui n'a pas fait de vacances avec la famille, en bagnole, et on peut imaginer qu'est-ce qui peut arriver aussi, même de côté dramatique, parce que tout le monde a vécu de petits épisodes avec la famille, c'est ça, c'est un peu ça.
Est-ce que vous diriez que votre famille est barge ?
Oui. Ouais, ils sont un peu fous, quoi.
Qu'est-ce qu'ils font ?
Quoi, quand je raconte des anecdotes, bah, c'est plein de petits trucs, quoi. Bah oui, quand je raconte, on me dit ils sont tarés.
Il faut raconter, là.
Ils sont très expressifs, enfin, surtout ma mère, très expressifs. Ils ont tous leur petit caractère, quoi. Et du coup, j'ai un petit frère qui fait un peu le caïn, mais qui est rigolo dans le fond. Il a tout le temps des petits trucs à raconter. J'ai ma grande sœur avec qui on ne peut pas faire de second degré, sauf que moi, j'adore ça. Du coup, il y a des gangs, quoi. Il y a mon père qui adore le second degré comme moi. Il y a ma mère et ma sœur qui se braquent pour un rien. Du coup, c'est marrant, quoi.
Bon.
Ah si, j'ai rencontré sa maman, elle est barge. Elle est trop drôle.
Bon, faut le voir pour le croire, en fait. C'est très dur à décrire, mais... C'est un personnage, oui.
Ouais, c'est un personnage qui est très rigolo.
En quoi elle ne fera pas dingue ?
Elle est très expressive, elle aussi. Elle est très ouverte, très joyeuse. Là, elle a fait un super sapin, par exemple, je peux le dire. Il m'a envoyé la photo ce midi. Donc, ce sapin, c'est du fil de fer.
Non, c'est et des cintres.
Des cintres et des petits nœuds roses. Et donc, ça a la forme d'un sapin. Et c'est quoi, en bout, en bas ? Il y a un petit détail aussi. Il y a les petits fils roses, les nœuds.
Oui, il y a des boules et c'est en fait, elle a accroché le tout sur un gros lampadaire. Et le haut du lampadaire, ça fait l'étoile du berger, quoi.
Voilà, c'est sympa. Voilà. Hier, on a reçu un Snapchat où c'était sa maman qui chantait sur le canapé une chanson française parce qu'elle écoutait la télé. Il l'a filmé, on avait reçu ça.
Du Michel Sardou.
C'était quoi la musique ?
C'était Poppy.
Bah moi mes parents sont un peu barges aussi, hein. Après, l'expliquer pourquoi ils sont barges. Je pense qu'elle va réussir à l'expliquer.
Son papa est très bavard. Il parle tout le temps, il raconte plein de choses, il a plein d'histoires à raconter. Parce que c'est mon ancienne colocataire. Du coup, je connais ses parents. Et
toutes ses positions, là, il est sûr de tout savoir. Il est très drôle. Et il fait des blagues de merde.
Genre ?
Ah bah des blagues de merde, genre... Vous savez, t'es belle comme un camion, ou parce qu'il adore les voitures, enfin des trucs comme ça, quoi. Un peu neuneux.
Votre famille ?
Moi, ouais, non. Moi, j'ai une famille normale. Non, personne n'a une famille normale, en fait. Tout le monde a l'impression que sa famille, c'est un peu folle. Mais c'est un peu ça, on finit pour la connaître trop bien, et pour connaître tous les défauts. Et on a marre de partager la vie jour par jour, mais on s'aime bien en même temps. Alors, on a l'impression qu'on va travailler au bureau, dans la rue. On reste normal, si tu veux, mais dans l'intimité, tout le monde sort ses petits défauts, sa petite connerie, et à la fin, chaque familial a l'impression que sa famille est folle. C'est ça.
Pendant le voyage, ça chantait dans la voiture ?
Oui, ça chantait.
Ça chantait quoi ?
Ça chantait arabe. Ça chantait français. Ma mère est fan de... Comment il s'appelle ? Un vieux chanteur français. Oui, ben, j'arriverai pas à retrouver.
Tu veux bien chanter fait...
Tu chantes, je ne rappelle pas de la
chanson.
Je ne rappellerai même pas de la chanson.
Super bien, en plus. Vous...
C'est votre chance, là.
Non, je ne me rappelle pas des paroles. Je ne pourrais même pas la chanter.
Moi, des souvenirs de chansons, pas spécialement, en fait.
Ah bah, ma mère écoute que de la vérité française en voiture, on a le droit d'admettre rien d'autre. Donc avant, il y avait soit ma petite sœur qui mettait Laurie, gros bonheur pour toute la famille, soit, ah, c'était l'horreur. Et sinon, c'est ma mère, vieille vérité française, genre Jean Ferrat, quoi. Et elle chantait. C'est pas mal, ouh. Ouais. Je préfère Michel Sardou, la maladie d'amour dans ce cas-là.
Elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants.
Dans le cœur des enfants, de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente.
Insolente.
Après, je sais plus.
Qui unit
dans son lit. Les cheveux blancs, les cheveux gris.
Mon père était fan de Beatles. Et même si je vous parle des années 80, il mettait le petit cassette dans la bagnole et on chantait les Beatles. Moi, ma préférée, c'était Obladi Oblada. Et puis l'autre, c'était Twist and Shout, un tube très, très, très ancien de Beatles, mais j'adorais. C'est très, très rock. Et c'est ma préférée.
Thank you.
Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure d'interview en marchant dans la rue à la rencontre du public?
En fait, l'improvisation, c'est laisser partir, c'est laisser faire. En fait, une interview sur la radio avec les réponses déjà préparées, avec une petite 10 minutes, 5 minutes, c'est toujours pareil. L'interview, ça ressemble beaucoup à l'autre, même si c'est en Belgique, en France, ou quoi, l'autre. Mais je viens de garder un souvenir pour beaucoup de temps quand même, parce que vraiment a été une distraction, a été vraiment une aventure, une petite aventure, de connaître des gens, et surtout de connaître de nouveaux lecteurs qui connaissaient la bande dessinée du tout, qui ont dit qu'ils ne sont pas lecteurs habitués de bande dessinée, qui par contre ils ont trouvé vraiment le sujet du fond de bouquin, qui je crois qu'ils ont ouvert sa curiosité. Alors ça vraiment, on trouve vraiment de vrais publics, quoi. Il y a le lecteur habitué de bande dessinée qui connaît le scénariste, qui connaît le dessinateur, qui connaît tout le monde. Mais j'aime bien aussi de trouver des gens qui ne sont pas habitués à lire la bande dessinée et qui sont capables de rêver un peu avec un bouquin qu'ils vont découvrir dans la rue.
Merci à
Jordi Lafebvre,
le dessinateur des Beaux Étés, bande dessinée parue aux éditions d'Argo, et merci à
Sonia,
Johan,
Audrey
pour leur libre participation à ce reportage enregistré à Nantes avec la complicité de la librairie Aladdin.
Fini dans son lit, les cheveux blancs, les cheveux gris.
Écoutez, vraiment, vous m'accompagnez à la promotion. Vous êtes vachement bien comme moi. Moi, je n'arrive pas à chanter. Non, c'est génial. Je suis vraiment, vraiment touché.